Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. L'arbitre suivante, magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'inauguration de la route à pH de Palembang Indralaya, le président espère l'augmentation de la compétitivité mondiale. La menace de ISIS dans la mer de Sulu aux Philippines est la raison pour laquelle l'Indonésie, Malaisie et Philippines ont lancé une opération de patrouille aérienne trilatérale. La Cour constitutionnelle indonésienne se prépare aux élections régionales 2018. L'Indonésie est crue à la construction d'un pays juridique démocratique. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le président indonésien Joko Widodo a inauguré le service routier à PH Palembang Indralaya. Le président souhaite que cette route puisse augmenter la compétition de l'Indonésie sur la scène internationale. Le président Joko Widodo a inauguré la route à PH Palembang Indralaya section 1 reliant Palembang Pamulutan jeudi après-midi dans les régions de Ogan Ilir, Palembang, dans le sud de Sumatra. Il a dit que la construction de cette route de 7,75 km de long nécessite une attention spéciale du gouvernement central en raison de la mauvaise condition de la terre. Le président souhaite que la construction étant gérée par le gouvernement dans diverses régions d'Indonésie puisse améliorer l'économie locale et l'économie nationale.
Ini sekali lagi baik tol di Jawa, baik tol di luar Jawa ini.
La route à PH à Java, en dehors de Java, renforcera notre base dans le cadre de la concurrence mondiale. Qu'est-ce que cela signifie? Notre indice de compétitivité globale serait meilleur parce que la mobilité des biens et des personnes serait plus rapide. Enfin, quel est le coût de transport des marchandises plus bas? Et finalement, ce que le prix des marchandises va baisser. Mais cela prend du temps car il n'est pas fini. L'inauguration de la route à PH Palembang Indralaya est divisée en trois sections. La première section relie Palembang Pamulutan et mesure 7,75 km de long. La deuxième section relie Pamulutan Kota Terpadu Mandiri Rambutan, une longueur de 4,49 km, alors que la troisième section relie la ville intégrée Mandiri Rambutan Indralaya de 8,5 km de long. À la même occasion, le gouverneur de Sumatra du Sud, M. Alex Nurdin, a déclaré que si la construction d'une route à péage de 3000 km entre Bakahuni et Lampung et la région spéciale Aceh pouvait être achevée par le gouvernement, l'économie populaire, notamment sur l'île de Sumatra. L'Indonésie et la Malaisie, y compris les Philippines, ont accepté de lancer une opération de patrouille aérienne trilatérale jeudi le 2 octobre en tant que forme de combat et de prévention du militantisme extrémiste à la frontière de trois pays. Dans son discours, le ministre de la Défense malaisien, Dato Sri Hishamuddin Tun Hussein, a déclaré que la menace du terrorisme dans la mer de Sulu, au sud des Philippines, pourrait devenir une menace pour les trois pays. L'activation du domaine maritime de la mer de Sulu par cette organisation terroriste en tant que base d'opération. La nature générale des effets de cette menace a clairement montré qu'elle ne devait pas être traitée par un seul pays. Cela nécessite une coopération régionale entre les pays ayant une mission commune. Cependant, le ministre de la Défense indonésien, M. Riamir Satriakudu, a assuré que la patrouille aérienne des trois nations se poursuivra aussi que nécessaire. Il a également expliqué que jusqu'à présent, il y avait trois pays en dehors de l'ASEAN qui sont désireux de participer à la même opération. D'autres pays peuvent-ils adhérer? Pas de problème pour les pays d'ASEAN, mais hors de l'ASEAN, trois pays écrivent déjà des lettres pour se joindre à la patrouille. Le ministre de la Défense chinois, le secrétaire de la Défense américain et le ministre de la Défense australien. Mais cela sera coordonné d'abord avec les membres de l'ASEAN. Mais le plus important est que nous sommes en mesure de surmonter le problème, parce que nous devons être sûrs de notre propre force. Les patrouilles aériennes trilatérales se dérouleront sur une base mensuelle où la Malaisie commencera la première opération en novembre 2017, suivie par les Philippines en décembre 2017 et ensuite l'Indonésie en janvier 2018. Le ministre de la Défense nationale des Philippines, Delphine Lorenzo, et les représentants des ministres de la Défense du Brunei Darussalam et de Singapour, Dato Sri Aziz et Maliki Osman, ont été présents dans cet événement. La Cour constitutionnelle d'Indonésie se prépare à affronter les élections régionales 2018. C'est ce qu'a déclaré le président de la Cour constitutionnelle, M. Arif Hidayat, lors d'un entretien spécial avec la Voix de l'Indonésie mercredi à Jakarta. La préparation comprend le conflit des résultats des élections régionales 2018.
Kita juga sekarang sudah mulai menyiapkan instrumen-instrumen.
Nous commençons également à préparer les instruments, les règles de la Cour constitutionnelle que nous utiliserons lorsque nous organiserons et trancherons les conflits électoraux en 2018. Et nous sommes sûrs que nous pouvons construire un État juridique démocratique pour le mieux. Auparavant, le président de la Cour constitutionnelle, M. Arif Hidayat, a réaffirmé que ce n'était pas tous les conflits régionaux peuvent être soumis à la Cour constitutionnelle. Cela est basé sur l'article 158 de la loi sur les élections régionales, qui est toujours utilisé uniformément par la Cour constitutionnelle. Arif Hidayat a également dit que l'article 158 avait réussi à réduire le nombre de litiges proposés à la Cour constitutionnelle lors des élections régionales 2017. Vous écoutez toujours le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. De nombreux pays ont reconnu que l'Indonésie a réussi à établir un État juridique démocratique et constitutionnel. C'est ce qu'a déclaré le président de la Cour constitutionnelle indonésienne, M. Arif Hidayat, lors d'un entretien spécial avec la Voix de l'Indonésie, mercredi à Jakarta. Selon lui, la reconnaissance a été reçue lorsqu'il a présenté l'Indonésie dans divers forums internationaux.
Dan saya selaku ketua Mahkamah Konstitusi sering diminta untuk teman-teman juga teman.
Et moi, en tant que président de la Cour constitutionnelle, est souvent demandé et pour ses collègues. Et les juges de la Cour constitutionnelle sont souvent invités à être les haute-parleurs dans divers forums internationaux. on dit que l'Indonésie a réussi à construire un État constitutionnel ou juridique démocratique et que nous avons eu une appréciation au niveau mondial. M. Arif Hidayat a également déclaré que l'Indonésie avait été choisie pour diriger l'association des cours constitutionnels en Asie et un membre du groupe de travail au Congrès de la Cour constitutionnelle mondiale. Selon lui, l'Indonésie a été choisie en raison de la réputation de la Cour constitutionnelle indonésienne avec le soutien du peuple indonésien dans le développement d'un État juridique démocratique. Le président indonésien Joko Widodo a reçu le premier ministre de la République démocratique populaire de Laos, Tongglun Sisulit, jeudi au palais d'État Bogor, à l'ouest de Java. Au cours de la réunion, le président Joko Widodo et le premier ministre de Laos ont convenu d'aider à résoudre la question de Rohingya dans l'état de Rakhine au Myanmar. Le président Joko Widodo a déclaré jeudi dans son discours au palais Bogor, à l'ouest de Java, qu'il avait accepté d'aider à résoudre le problème dans l'état de Rakhine au Myanmar. En outre, les deux pays ont également discuté de diverses questions de l'ASEAN et de la région. Il espère que dans cette réunion, les relations bilatérales entre les deux pays seront plus étroites. Selon le président, il est optimiste que cette réunion resserrera les relations entre les deux pays. Le président a également exprimé sa gratitude au premier ministre du Laos qui a organisé diverses activités pour resserrer les relations entre les deux pays. Dans les 60 ans de relations bilatérales qui soutiennent le principe de la confiance et le respect mutuel. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Chers auditeurs, voici donc le commentaire ayant pour le titre « L'importance du dialogue pour résoudre la crise de Catalogne ». La pleine indépendance de la Catalogne de l'Espagne n'est pas encore définitive. Le référendum mis en place le 1er octobre est toujours en discours politique. L'insistance des deux grands chefs de parti pour que le leader séparatiste de Catalogne, Charles Puigdemont, n'annonce pas l'indépendance qui affecte les résultats du référendum. Avant le référendum public, il y a 2 jours, Puigdemont n'avait pas annoncé l'indépendance de la Catalogne. Cette déclaration rend certainement les partisans du référendum déçus et confus. D'autre part, le gouvernement de l'Espagne a soulagé pendant un certain temps en raison de la pression qui entraîne des résultats. Auparavant, le vice-premier ministre espagnol Soraya Sáenz de Santa Maria a rappelé que le référendum entraînerait la destruction de la Catalogne. Elle a également rappelé, si l'indépendance est annoncée par l'Espagne, l'autonomie accordée à la Catalogne sera révoquée. La pression contre le côté pro-référendum ne se fait pas seulement le gouvernement espagnol, mais aussi les grandes entreprises espagnoles opérant en Catalogne. Ils menacent de fermer leurs opérations et de retirer leurs actifs de la Catalogne. L'avertissement du gouvernement espagnol et des entrepreneurs qui rend la déclaration d'indépendance est retardé pendant un certain temps amplifie la voix de l'opposition catalane. Le dirigeant du Parti socialiste, Pedro Sánchez, a insisté, le dirigeant séparatiste, Puigdemont, a utilisé le dialogue avec Madrid plutôt que la déclaration unilatérale d'indépendance. Selon l'opposition, la meilleure façon de faire est de négocier avec le gouvernement central de Madrid, afin que l'identité de la Catalogne, comme la langue, la culture et l'éducation, soit respectée. Le référendum en Catalogne ne suscite pas seulement des inquiétudes en Espagne, mais aussi dans les pays voisins comme le Portugal, la Belgique, l'Italie, le Royaume-Uni et la France. Ils craignent également que le succès de la Catalogne à se séparer de l'Espagne déclenche un mouvement séparatiste dans chaque pays. Auparavant, la ministre des Affaires européennes de la France, Nathalie Loiseau, a déclaré que la France ne reconnaîtrait pas une déclaration d'indépendance unilatérale par les autorités catalanes. De nombreux pays attendent encore d'autres développements du référendum catalan. En effet, afin d'éviter l'incertitude qui pourrait être trop longue et possible pour déclencher un conflit, les parties en conflit des autorités catalanes et du gouvernement central d'Espagne doivent mener des dialogues constructifs. Le gouvernement central de Madrid doit être plus ouvert à comprendre les demandes de la majorité des Catalans qui veulent une autonomie complète. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Merci d'être fidèle à La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 13 octobre 1946, la France a adopté la Constitution de la 4e République. La 4e République est la période entre 1946 et 1958 en France, où ce pays a été gouverné par un régime république avec la Constitution de la 4e République française. La 4e République est une reprise de la 3e République française qui a eu lieu avant la Seconde Guerre mondiale, qui a fait face à des problèmes de difficultés similaires, tels que le très court règne qui provoque la difficulté de la planification de la politique. La France a adopté la Constitution de la 4e République le 13 octobre 1946. Le 13 octobre 1977, quatre Palestiniens ont détourné un avion appartenant à la compagnie aérienne allemande Lufthansa et ont demandé la libération de 11 prisonniers terroristes, ou mieux connus sous le nom de faction de l'armée rouge. Ce groupe de gauche terrorisait l'Allemagne depuis 30 ans. Le groupe a tué plus de 30 personnes du monde des affaires, de l'armée et du gouvernement. Le but de cette assassination était de renforcer le capitalisme en Palestine. Les pirates de l'air ont pris l'avion dans l'air au moins de 6 pays. Et enfin, l'avion a atterri dans la ville de Mogadiscio, en Somalie, après que les pirates de l'air ont tiré sur un pilote. Les forces spéciales allemandes ont immédiatement encerclé l'avion à leurs arrivées à l'aéroport de Somalie. Ils ont libéré 86 otages et ont tué 3 des 4 pirates de l'air. Les prisonniers de la faction de l'armée russe qui ont entendu la nouvelle se sont suicidés dans la prison de Stammheim en Allemagne. Le 13 octobre est la journée internationale pour la réduction des catastrophes naturelles. La journée internationale pour la réduction des catastrophes naturelles a été conçue par l'Assemblée générale des Nations unies pour encourager les gens et le gouvernement à prendre part à la construction des communautés et les sociétés qui sont résistantes aux catastrophes naturelles. Au début, la journée internationale pour la réduction des catastrophes naturelles est célébré chaque deuxième mercredi en octobre. Cette journée internationale fait partie de la proclamation internationale de la réduction des catastrophes naturelles qui a débuté en 1990. En 2002, une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de maintenir les efforts de la réduction d'impact et de l'atténuation des catastrophes naturelles mondiales en créant la Journée internationale de commémoration qui est célébrée chaque année. Enfin, en 2009, l'Assemblée générale des Nations unies a fixé 13 octobre comme la Journée internationale de la réduction des catastrophes naturelles. C'était l'histoire d'aujourd'hui de La Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Radio République Indonésia, Service international, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, Service international, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio Republik Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes, 15 150, 9 525 et 11 785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec la mise au point et pour le titre, le président indonésien a ouvert l'exposition commerciale de l'Indonésie TEI 2017. Le président de l'Indonésie, Joko Widodo, a officiellement ouvert la 32e exposition commerciale de l'Indonésie, ou TEI 2017, à la Convention de l'exposition d'Indonésie, ICE, à Tangerang, Banten, mercredi le 11 octobre 2017. L'exposition internationale du commerce a lieu du 11 au 15 octobre. Dans son discours, le président Joko Widodo a déclaré que l'exposition commerciale comme 32e exposition commerciale de l'Indonésie est nécessaire pour encourager l'augmentation de la valeur des exportations de l'Indonésie. Le président a dit qu'il y avait une augmentation du commerce extérieur de l'Indonésie. Il a expliqué que la valeur des exportations indonésiennes de janvier en août a atteint 108,79 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 17,58% par rapport à la même période en 2016. De janvier en août, la valeur des exportations de produits non pétroliers et gaziers a atteint 98,76 milliards de dollars ou une augmentation de 17,73%. Le président Joko Widodo a affirmé que la clé de la croissance à deux, à savoir l'exportation et l'investissement qui doivent augmenter. Sans ces deux éléments, la croissance d'Indonésie augmente. Le président a demandé que l'ambassade indonésienne à l'étranger surveille les besoins des autres pays qui peuvent être remplis par les entrepreneurs indonésiens. C'est donner naissance à de nouvelles industries indonésiennes qui, bien sûr, augmenteront l'emploi. Le ministre du Commerce, Enggar Tias Tolukita, à la même occasion, a déclaré « Cette année, la 32e TEI se concentrait pour attirer les acheteurs à l'étranger. » Parce que le gouvernement a pour objectif d'ouvrir de nouveaux marchés d'exportation en ciblant 16 pays non traditionnels en tant qu'acheteurs potentiels de produits indonésiens dans TEI. Ces pays sont entre autres les pays africains, l'Eurasie, l'Asie centrale et l'Amérique du Sud. À cette fin, le ministère du Commerce a organisé des promotions et des socialisations étrangères menées par 132 bureaux de représentation de la République d'Indonésie, les attachés commerciaux et le directeur du centre de promotion du commerce de l'Indonésie. Selon Enggar Tias Tolukita, à TEI 2017, les attachés commerciaux et les responsables d'ITPC à l'étranger sont chargés de faire venir des acheteurs étrangers potentiels pour faire des affaires avec des exportateurs indonésiens. Enggar Tias Tolukita a déclaré que dans la TEI cette fois, le ministère du Commerce fixe des objectifs en total de transactions d'1,1 milliard de dollars américains, soit 14,69 milliards roupias, avec plus de 300 produits indonésiens divisés en 7 zones potentielles nationales et excellentes. Ces zones sont mobilier et ameublement, la mode, les produits artisanaux et créatifs, les produits de la première qualité, les industries stratégiques, les produits et services manufacturiers, les produits alimentaires et boissons et les produits premium des provinces. Chers auditeurs, c'était la mise au point pour ce soir.
Le président indonésien Joko Widodo a inauguré le service routier à PH Palembang Indralaya. Le président souhaite que cette route puisse augmenter la compétition de l'Indonésie sur la scène internationale. Le président Joko Widodo a inauguré la route à PH Palembang Indralaya section 1 reliant Palembang Pamulutan jeudi après-midi dans les régions de Ogan Ilir, Palembang, dans le sud de Sumatra. Il a dit que la construction de cette route de 7,75 km de long nécessite une attention spéciale du gouvernement central en raison de la mauvaise condition de la terre. Le président souhaite que la construction étant gérée par le gouvernement dans diverses régions d'Indonésie puisse améliorer l'économie locale et l'économie nationale.
Ini sekali lagi baik tol di Jawa, baik tol di luar Jawa ini.
La route APS à Java, en dehors de Java, renforcera notre base dans le cadre de la concurrence mondiale. Qu'est-ce que cela signifie? Notre indice de compétitivité globale serait meilleur parce que la mobilité des biens et des personnes serait plus rapide. Enfin, quel est le coût de transport des marchandises plus bas? Et finalement, ce que le prix des marchandises va baisser. Mais cela prend du temps car il n'est pas fini. L'inauguration de la route APS Palembang-Indralaya est divisée en trois sections. La première section relie Palembang-Pamulutan et mesure 7,75 km de long. La deuxième section relie Pamulutan-Kota Terpadu Mandiri Rambutan, une longueur de 4,49 km, alors que la troisième section relie la ville intégrée Mandiri Rambutan Indralaya de 8,5 km de long. À la même occasion, le gouverneur de Sumatra du Sud, M. Alex Nurdin, a déclaré que si la construction d'une route à péage de 3000 km entre Bakahuni et Lampung et la région spéciale Aceh pouvait être achevée par le gouvernement, l'économie populaire, notamment sur l'île de Sumatra. L'Indonésie et la Malaisie, y compris les Philippines, ont accepté de lancer une opération de patrouille aérienne trilatérale jeudi le 12 octobre en tant que forme de combat et de prévention du militantisme extrémiste à la frontière de trois pays. Dans son discours, le ministre de la Défense malaisien, Dato' Sri Hishamuddin Tun Hussein, a déclaré que la menace du terrorisme dans la mer de Sulu au sud des Philippines pourrait devenir une menace pour les trois pays. L'activation du domaine maritime de la mer de Sulu par cette organisation terroriste en tant que base d'opération, la nature générale des effets de cette menace a clairement montré qu'elle ne devait pas être traitée par un seul pays. Cela nécessite une coopération régionale entre les pays ayant une mission commune. Cependant, le ministre de la Défense indonésien, M. Ria Mirza Triakudu, a assuré que la patrouille aérienne des trois nations se poursuivra aussi que nécessaire. Il a également expliqué que jusqu'à présent, il y avait trois pays en dehors de l'ASEAN qui sont désireux de participer à la même opération. D'autres pays peuvent-ils adhérer? Pas de problème pour les pays d'ASEAN, mais hors de l'ASEAN, trois pays écrivent déjà des lettres pour se joindre à la patrouille. Le ministre de la Défense chinois, le secrétaire de la Défense américain et le ministre de la Défense australien. Mais cela sera coordonné d'abord avec les membres de l'ASEAN. Mais le plus important est que nous sommes en mesure de surmonter le problème, parce que nous devons être sûrs de notre propre force. Les patrouilles aériennes trilatérales se dérouleront sur une base mensuelle où la Malaisie commencera la première opération en novembre 2017, suivie par les Philippines en décembre 2017, et ensuite l'Indonésie en janvier 2018. Le ministre de la Défense nationale des Philippines, Delphine Lorenzo, et le représentant des ministres de la Défense du Brunei Darussalam et de Singapour, Dato' Sri Aziz et Maliki Osman, ont été présents dans cet événement. La Cour constitutionnelle d'Indonésie se prépare à affronter les élections régionales 2018. C'est ce qu'a déclaré le président de la Cour constitutionnelle, M. Arif Hidayat, lors d'un entretien spécial avec la Voix de l'Indonésie mercredi à Jakarta. La préparation comprend le conflit des résultats des élections régionales 2018.
Kita juga sekarang sudah mulai menyiapkan instrumen-instrumen
Nous commençons également à préparer les instruments, les règles de la Cour constitutionnelle que nous utiliserons lorsque nous organiserons et trancherons les conflits électoraux en 2018. Et nous sommes sûrs que nous pouvons construire un État juridique démocratique pour le mieux. Auparavant, le président de la Cour constitutionnelle, M. Arif Hidayat, a réaffirmé que ce n'était pas tous les conflits régionaux peuvent être soumis à la Cour constitutionnelle. Cela est basé sur l'article 158 de la loi sur les élections régionales, qui est toujours utilisé uniformément par la Cour constitutionnelle. Arif Hidayat a également dit que l'article 158 avait réussi à réduire le nombre de litiges proposés à la Cour constitutionnelle lors des élections régionales 2017. Vous écoutez toujours le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. De nombreux pays ont reconnu que l'Indonésie a réussi à établir un État juridique démocratique et constitutionnel. C'est ce qu'a déclaré le président de la Cour constitutionnelle indonésienne, M. Arif Hidayat, lors d'un entretien spécial avec la Voix de l'Indonésie, mercredi à Jakarta. Selon lui, la reconnaissance a été reçue lorsqu'il a présenté l'Indonésie dans divers forums internationaux.
Dan saya selaku ketua Mahkamah Konstitusi sering diminta untuk teman-teman juga teman-teman.
Et moi, en tant que président de la Cour constitutionnelle, est souvent demandé et pour ses collègues et les juges de la Cour constitutionnelle sont souvent invités à être les haute-parleurs dans divers forums internationaux. On dit que l'Indonésie a réussi à construire un État constitutionnel ou juridique démocratique et que nous avons eu une appréciation au niveau mondial. M. Arif Hidayat a également déclaré que l'Indonésie avait été choisie pour diriger l'Association des cours constitutionnelles en Asie et un membre du groupe de travail au Congrès de la Cour constitutionnelle mondiale. Selon lui, l'Indonésie a été choisie en raison de la réputation de la Cour constitutionnelle indonésienne avec le soutien du peuple indonésien dans le développement d'un État juridique démocratique. Le président indonésien Joko Widodo a reçu le premier ministre de la République démocratique populaire de Laos, Tongglun Sisulit, jeudi au palais d'État Bogor, à l'ouest de Java. Au cours de la réunion, le président Joko Widodo et le premier ministre du Laos ont convenu d'aider à résoudre la question de Rohingya dans l'état de Rakhine au Myanmar. Le président Joko Widodo a déclaré jeudi dans son discours au palais Bogor à l'ouest de Java qu'il avait accepté d'aider à résoudre le problème dans l'état de Rakhine au Myanmar. En outre, les deux pays ont également discuté de diverses questions de l'ASEAN et de la région. Il espère que dans cette réunion, les relations bilatérales entre les deux pays seront plus étroites. Selon le président, il est optimiste que cette réunion resserrera les relations entre les deux pays. Le président a également exprimé sa gratitude au premier ministre du Laos qui a organisé diverses activités pour resserrer les relations entre les deux pays. Dans les 60 ans de relations bilatérales qui soutiennent le principe de la confiance et le respect mutuel. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Magazine culturel. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une danse traditionnelle de Kalimantan Ouest. Donc, restez toujours avec nous à la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Le 23 octobre est le 24e anniversaire de la ville de Pontianak. L'anniversaire de la ville de Pontianak sera animé par 2460 personnes qui danseront la danse traditionnelle Tari Jepin. Le grand événement intitulé Pontianak Berjepin impliquera les employés des organismes gouvernementaux et de diverses communautés. Cette activité est l'un des efforts pour promouvoir la culture malaise. Cette édition magazine culturel se concentre à la danse traditionnelle Tari Jepin ou la danse de Jepin, l'une des danses traditionnelles malaise à Pontianak. Tari Jepin ou la danse de Jepin s'est adaptée de l'art malais dans la région de l'islam et la culture locale. Cette danse était initialement l'un des médias dans la propagation de l'islam à Kalimantan Ouest au XIIIe siècle. Selon certaines sources, cette danse était réalisée principalement dans la région de Sambas avant de s'étendre à diverses zones du Kalimantan Ouest. Tout au long de son développement, cette danse est devenue une danse pour accueillir des visiteurs. La danse de Jepin s'est développée à une variété de nouvelles créations telles que la danse de Jepin Melayu, Jepin Lembut, Jepin Kipas et Jepin Tali Bui. Les danseurs de danse de Jepin se consistent des hommes et des femmes. Pendant le spectacle, les danseurs portent des vêtements traditionnels malais. Les danseurs masculins portent des manches longues et un pantalon décoré de sarong à leur taille. À la tête, les danseurs masculins utilisent généralement les coiffures comme les casques noirs. Les danseuses portent le long vêtement et de vêtements sont généralement décorés d'ornements comme des fleurs. La danse de Jepin est accompagnée par la musique malaise traditionnelle comme les percussions de gambus et marawis. En plus de la musique, cette danse est également accompagnée par des chansons sous la forme de versets sur la vie quotidienne et les valeurs de la culture islamique. Chers amis, voilà cette édition magazine culturel de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. On vous retrouve encore demain avec d'autres sujets aussi intéressants. À bientôt.
Couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Chers auditeurs et chers auditeurs, bonsoir. Retrouvons-nous dans le programme L'Indonésie en couleurs, ayant pour titre Breveter une grande variété d'art traditionnel à Karanganyar. Chers, les arts traditionnels sont les éléments artistiques qui font partie de la vie communautaire dans un clan, tribu et certaines nations, tandis que les traditions sont une partie de la société qui pourrait être détruite si les propriétaires de ces traditions n'ont aucune volonté de maintenir et de préserver les traditions avec tous les efforts. Comme les efforts à préserver les arts traditionnels en présence de Karanganyar, Jawa Central, le gouvernement de résidence de Karanganyar a le projet de breveter 17 danses de nouvelles créations et les arts de spectacle des résultats de composition des maîtres de cette région. Avant d'être brevetés comme les arts originaux de Karanganyar, les 17 arts traditionnels seront étudiés par quelques savants de l'Institut de l'Art Indonésie ou ICI Surakarta. L'essor d'être qui se développe dans presque toutes les régions à Karanganyar sont entre autres la danse randil provenant de Matesi, la danse badut Entong Ilir de Jenawi, l'orchestre de bambou, Kumpul Laras de Kolomadu, la danse badut Wonokeling de Jatiyoso, dolanan anak ngenger de Karangpandan, la danse macan gadungan de Ngargoyoso, le théâtre de danse Mondo Siwo de Tawangmangu, la danse pan de besi de Jenawi et la danse dempul provenant de Kebak Kramat. Toutes les danses ont été organisées au cours de l'anniversaire de Karanganyar le 9 novembre dernier au terminal de Karangpandan. Ces arts contemporains sont l'innovation des humanistes et des artistes à Karanganyar. Comme on le sait, beaucoup de génies dans le domaine des arts musicaux, les marionnettes, la danse, Champusari Hadra, etc. proviennent de Karanganyar. Selon les données, il y a 457 organismes artistiques avec 691 artistes de Karanganyar. Secrétaire, le chef chargé de l'infrastructure et de la promotion du tourisme du service de la culture et du tourisme, Bambang Sugito, a affirmé que le gouvernement de région de Karanganyar encourageait les artistes à Karanganyar de créer et d'évoquer les arts traditionnels afin de devenir une attraction pour les touristes. Selon Bambang, il y a eu des artistes qui ont réussi à organiser l'événement international pour attirer les touristes locaux et étrangers à venir à regarder. Comme Mbah Prapto de Padepokan Lemah Putih à Gondang Rejo qui organisait l'événement Serawung Seni Candi au complexe du Temple Suku qui a entré dans le Kanglong Dukye des événements touristiques de Karanganyar. En fait, il y a beaucoup de danses, le théâtre et l'orchestre traditionnel qui n'ont pas été inventoriés. La plupart ont été disparus, mais ces arts ont émergé de nouveau dans la transformation sur la chorégraphie, le costume, la musique d'accompagnement. Le gouvernement de Rezens est prêt à aider à promouvoir l'événement organisé par les artistes provenant de Bumi Intan Pari à Karanganyar. Chers auditeurs, c'est à l'Indonésie encore pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le programme musical. Et cette fois, nous allons vous présenter des chansons en provenance de Java Central. Pour commencer notre rencontre aujourd'hui, écoutons une chanson japonaise intitulée Padang Bulan. Cher ami, vous venez d'écouter une chanson intitulée Padang Bulan composée par R.C. Hardjasubroto. Cette chanson contient une signification religieuse cachée dans la parole. C'est ce que nous, en tant qu'êtres humains, devons être reconnaissants au Dieu. Chers amis, passons maintenant à une autre chanson de Japa Sankra intitulée Jaranan. Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Vous êtes en train d'écouter des chansons traditionnelles en provenance de Java Central. C'était une chanson intitulée Jaranan, accompagnée par Gending, instrument de musique traditionnelle créé par Ki Hadi Sukatno. Cette chanson part d'une tradition populaire intitulée Jaranan, une sorte de danse où les danseurs utilisent des chevaux artificiels. Dans les temps anciens, les spectacles de Jaranan étaient sacrés et souvent exécutés pour les cérémonies officielles au palais. Chers amis, avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter les deux dernières chansons intitulées Gundul Gundul Pacul et Jubla Jubla Swang. Merci à tous et à bientôt.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie. Sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Thank you.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie à Jakarta. C'était des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.